Vous êtes en effet encore ministre des Affaires européennes. Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Encore quelques heures. C'est et ça. Merci de nous réserver votre première interview depuis que vous avez été investie officiellement en tête de liste La République En Marche pour les européennes. D'abord un mot de vous, si vous permettez. Vous n'avez pas un profil trop technocrate pour espérer réconcilier les Français avec l'Europe?
Écoutez, c'est ce que disent ceux qui ne me connaissent pas et c'est parfois ce que disent ceux qui n'ont pas envie de parler du projet. Moi j'ai passé ma vie à travers le monde, j'ai passé ma vie sur des terrains très difficiles et parfois très différents. Je ne me suis jamais vue comme une technocrate, je ne me reconnais pas dans cette caricature. Ce que je suis, c'est une engagée de l'Europe, une passionnée de l'Europe, quelqu'un qui veut porter les intérêts des Français en Europe. Je trouve que ça ne nuit pas, quand on veut changer quelque chose, de savoir comment ça marche.
En 2014, vous étiez l'invité du journal Inattendu sur RTL. Vous étiez alors directrice de l'ENA. Vous sembliez quand même déjà vouloir vous débarrasser de votre image. Écoutez.
C'est vrai, je suis diplomate, mais je n'aime pas la langue de bois. Je dirige l'ENA, mais je ne suis pas énarque. Je suis féministe, mais je ne règle mes comptes avec aucun homme. Bref, je n'aime ni les étiquettes, ni les idées reçues, ni les parcours tout tracés.
Waouh ! Pour un peu, vous vous définiriez comme une rebelle, Nathalie Loiseau.
Écoutez, je suis une engagée, c'est pour ça que je fais de la politique, c'est parce que je veux changer les choses.
Oui, vous n'aimez pas les étiquettes, vous assumez celle de La République En Marche, réputée compétente, connaisseuse des dossiers, pas forcément perçue comme proche des Français.
Là encore, c'est toujours facile de décrire ce qui on ne connaît pas. Moi, j'ai passé, par exemple, toute cette année sur le terrain. Mon travail consiste notamment à écouter les Français, qu'ils soient artisans, agriculteurs, qu'ils aient une PME, savoir ce que l'Europe leur apporte, les difficultés aussi qu'ils rencontrent,
on va en parler
pour
d'ailleurs.
Pouvoir porter ça au niveau européen. Et c'est comme ça qu'on peut être efficace, je crois.
Je ne suis pas langue de bois, vous venez de dire. C'était en 2014, oui. On imagine que vous le dites toujours, franchement, est-ce que vous ne regrettez pas votre déclaration de candidature face à Marine Le Pen sur France 2 d'une façon qui paraissait peu spontanée, pour ne pas dire même complètement fabriquée?
C'est les commentateurs qui ont commenté. Moi, ce que j'ai lu, c'est les messages des Français. À la fois pour me dire que aller sur le ring voir Madame Le Pen, tout le monde ne le fait pas. Je n'ai pas eu l'impression qu'on se battait pour l'affronter. Ensuite, moi, j'ai parlé avec mon cœur, avec mes tripes aussi. J'avais envie, à ce moment-là, de ne plus me débiner. Vous savez, ce n'est pas facile de se dire « je vais solliciter la tête de liste et il faut que je trouve un moment pour l'annoncer ». Si vous écoutez vos conseillers, ils vous disent qu'on va faire ça petit à petit, j'allais dire, dans l'entre-soi de la politique à l'ancienne. Là, vous avez des millions de téléspectateurs, vous avez entendu beaucoup de contre-vérités.
Vous aviez l'impression de prendre un risque, là, de sauter dans le vide, au moment où vous l'avez dit?
Je me suis mise en risque, oui, parce que je n'avais pas prévenu les chefs de la majorité.
Vous aviez prévenu Emmanuel Macron?
Emmanuel Macron souhaitait que je sois tête de liste.
Et vous l'aviez prévenu? Vous alliez le faire de cette façon-là?
Emmanuel Macron était en Afrique.
Vous l'aviez prévenu?
Il a entendu que je l'avais fait à ce moment-là.
Donc, vous ne l'avez pas prévenu?
Je l'ai fait spontanément à ce moment-là. Bon. Je ne suis pas une vieille bête de foire de la politique politicienne, je vous le confirme.
Votre numéro 2, Pascal Canfin, sur la liste, révélée hier, la trentaine de noms en tout cas,
oui.
Jouit d'une belle estime dans les milieux écolos, dans les milieux européens. Yannick Jadot, qui est tête de liste des Verts, dit que la ficelle est un peu grosse, on ne compense pas une absence de politique écologique par un casting en gros, il dit que c'est votre alibi écolo.
Écoutez, je connais bien Pascal Canfin, il n'a pas une tête d'alibi. Il nous rejoint parce qu'il le souhaite, parce qu'il veut, comme nous, agir au niveau européen pour être pleinement efficace pour cette transition écologique qui est l'urgence climatique. Nous sommes totalement convaincus que nous devons apporter aux Français, aux Européens, une réponse à la hauteur sur l'urgence climatique. Je rappelle en outre que Pascal Canfin n'est pas le seul à porter ses convictions sur cette liste. Je les porte moi aussi, mais vous avez Irène Tolleret, qui est agricultrice dans le sud de la France, qui a déjà fait la transformation dans le bio de son exploitation. Vous avez Pascal Durand, qui est encore aujourd'hui député européen, écologiste. Vous avez Catherine Chabot, navigatrice, qui travaille sur la dépollution des océans. Ça n'est pas une prise, mais c'est une très bonne nouvelle pour la liste, pour les Français, que Pascal Canfin nous rejoigne.
C'est un fait exprès d'avoir mis autant d'inconnus du grand public sur la liste. C'est quoi?
C'est le renouvellement.
Qu'est-ce que la cause européenne y gagnera, en fait?
D'avoir des Européens dont l'histoire est une histoire d'engagement pour l'Europe, mais aussi une histoire d'insatisfaction. Tous ceux qui sont sur la liste, ce sont des gens qui croient que l'Europe peut faire mieux, doit faire mieux, qui ont envie de s'y consacrer, qui se sont tous engagés à être à 100% sur leur mandat, à être présents à Bruxelles et à Strasbourg en permanence, à porter des vrais
sujets. Ça, c'est le renouvellement, ça, c'est un tacle à la pratique qui consistait, il y a encore quelques années, à concevoir les listes européennes comme une espèce de fourre-tout, de cimetière des éléphants.
Exactement, et je crois que c'est ce qui faisait que les Français ne s'intéressaient pas beaucoup aux élections européennes. Aujourd'hui, vous avez une liste, une très belle liste, une très belle équipe de gens qui veulent vraiment se donner à ce projet, vraiment défendre les intérêts des Français en Europe.
On verra comment se passe la campagne. Quel sera l'axe majeur de la campagne précisément ?
L'axe majeur, c'est le projet. C'est permettre aux Français d'avoir une Europe qui les protège mieux, qui aujourd'hui soit respectée dans le monde.
Pardon,
dans le
fracas du monde. Vous êtes en contradiction déjà avec Pascal Canfin. Qu'est-ce qu'il dit hier dans Le Monde ? L'écologie sera l'axe majeur de la campagne, premier transversal du projet. Il n'hésite pas.
L'écologie, mais aussi l'Europe sociale, parce que c'est une urgence. Faire en sorte qu'il y ait un SMIG européen, c'est une urgence. Ne plus se concurrencer les uns et les autres entre Européens, c'est une urgence. Permettre d'avoir des champions européens, faire qu'en sorte, par exemple, et ça rejoint les préoccupations écologiques, mais d'avoir une alliance européenne des batteries. Faire que l'intelligence artificielle soit un projet porté par l'Union européenne et pas un projet porté par la Chine ou par les États-Unis. Voilà ce que nous portons. L'urgence écologique, l'urgence climatique, elle est transversale à tout ça. Et là-dessus, je rejoins Pascal Canfin.
Vous ne répondez pas tout à fait de la même façon, mais enfin, vous allez vous caler. On espère pour vous. Vous pouvez compter sur votre principal adversaire.
C'est bien d'avoir des facettes.
Vous pouvez compter sur votre principal adversaire, j'imagine, le Rassemblement national, pour vous rappeler que une des priorités de la campagne, qu'il le mettra en tout cas en priorité, c'est l'immigration. Emmanuel Macron dit dans sa tribune, la tribune qu'il a publiée dans un certain nombre de journaux européens récemment, qu'il faut remettre à plat Schengen. Ça veut
Exactement.
Dire quoi ?
Ça veut dire que Schengen a été créé en commençant par abattre les frontières intérieures sans renforcer les frontières extérieures. Il est temps d'être sérieux. Il est temps d'avoir 10 000 hommes pour la police européenne des frontières. Aujourd'hui, on en a 600. Ça veut dire aussi que les pays membres de Schengen doivent tous prendre leurs responsabilités et être solidaires.
Ceux qui laissent... c'est quoi ? C'est pour la Hongrie, c'est pour la Pologne qui refusent d'accueillir des réfugiés
Il ne s'agit pas de montrer du doigt un pays ou un autre. On est dans Schengen, on accepte de contrôler ses frontières, mieux que certains ne le font.
Et on accepte
d'être solidaires.
Ils ne le font
Rien. Sinon, on ne bénéficie pas de la liberté de circulation.
Donc c'est
sinon,
une menace.
On est suspendu de Schengen.
Donc c'est une menace. Vous voulez possiblement remettre en cause la libre circulation intérieure de l'Europe ?
Ce que nous voulons, c'est que les pays qui bénéficient de cette libre circulation la fassent fonctionner au mieux des intérêts des Européens. Il ne peut pas y avoir simplement des avantages et aucune responsabilité.
Donc c'est une menace qui est brandie ?
Ce n'est pas une menace, c'est une règle du jeu.
Oui, mais la règle du jeu, vous ne pouvez pas l'appliquer pour l'instant.
C'est justement pour cela qu'il faut la renforcer. Si on est tous d'accord que Schengen, c'est un plus, que
tous
nos travailleurs...
Vous voulez dire l'unanimité ?
Non, ça ne se fait pas à l'unanimité.
À la
il faut créer du
qualifié.
Consensus, exactement. Ouais. Si nous sommes tous d'accord que faire circuler les travailleurs, les idées, les étudiants, c'est un plus pour l'Union européenne, alors il faut se donner les moyens que cet espace de circulation, il soit sûr et il soit contrôlé.
Sur RTL, on va consacrer une série sur l'Europe qui fait avancer ou l'Europe qui bloque. Donnez-moi un exemple de bénéfice européen pour les Français.
Hier, au Parlement européen, et je remercie l'un des membres de notre liste qui est encore parlementaire européen et qui se présente à nouveau, Dominique Riquet, d'être allé voter. C'était un vote majeur. Aujourd'hui, les créateurs, les artistes voient leurs droits protégés dans l'univers du numérique, grâce à l'Europe.
L'Europe qui nuit, au contraire. L'Europe qui pénalise.
L'Europe qui pénalise, c'est quand elle a fait trop de normes. Il lui est arrivé d'en faire, elle en fait moins aujourd'hui. Il faut que nous soyons vigilants. Il ne faut pas compliquer la vie des PME. Il ne faut pas que les réglementations européennes soient là pour protéger des lobbies. Il faut qu'elles soient là pour protéger les Européens, les consommateurs par exemple.
Question courte, réponse courte. L'Allemagne suggère que Strasbourg ne soit plus le siège du Parlement européen. Il y a une question de rationalisation, à la fois financière, écolo d'ailleurs, que tout se passe à Bruxelles.
Alors, ce n'est pas l'Allemagne, c'est
un
parti politique.
C'est la patronne de la CDU.
Ça n'est pas la même chose.
C'est la successeur de Merkel.
Ce n'est pas la même chose. Strasbourg, c'est le cœur de la démocratie en Europe. C'est le Parlement européen, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Si un jour vos droits sont bafoués, c'est à Strasbourg qu'ils sont défendus.
Et donc ?
C'est le Conseil de l'Europe. On a besoin de tout, sauf d'une Europe recroquevillée dans une bulle à Bruxelles.
Vous refusez
avec
d'ouvrir ce débat ? Il n'est pas question d'ouvrir
ce débat. Il n'est pas question d'ouvrir ce débat.
Il y a un dessin ce matin à la une du Canard enchaîné, Nathalie Loiseau, Emmanuel Macron qui vous parle. Il vous dit « L'équation est simple, Nathalie, tu me fais gagner ou tu endosses l'échec. » C'est signé URPS. Est-ce que ça vous plaise ou non, de votre réussite ou de votre échec dépend une grande partie de la suite du quinquennat. Vous devez arriver en tête. C'est ça l'enjeu pour le président.
L'enjeu, c'est que notre projet soit le premier projet qui convainque les Français. Parce que si on veut une France forte, il faut que l'Europe soit transformée.
Vous envisagez de ne pas arriver en tête ?
Mon but, c'est d'arriver en tête, bien sûr.
Mais
c'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que j'y vais.
Vous la sentez, la responsabilité sur les épaules ?
Bien sûr. Ouais. Et c'est enthousiasmant qu'on me fasse confiance et qu'on puisse porter quelque chose d'aussi beau avec des colistiers, une liste aussi convaincante auprès des Français.
Dernier Conseil des ministres, donc.
Dans quelques minutes,
votre démission va entraîner un remaniement. Est-ce qu'il pourrait être plus large, s'étendre au départ du porte-parole Benjamin Griveaux ?
Ça n'est pas à moi de le dire.
Ouais, vous êtes candidate, ça y est, vous êtes sur le ring. Est-ce que vous lui dites quoi ? Viens te battre, sors du gouvernement, viens te battre pour Paris, puisque c'est ça son combat.
Oui, c'est à lui de le décider et c'est au président de savoir s'il veut faire un remaniement, de quelle taille. Ça n'est pas à moi, ça n'a jamais été à moi et encore moins aujourd'hui où je quitte le gouvernement.
Vous ferez un petit...
Avec regret, parce que c'était une équipe formidable,
vous allez
mais
le dire,
avec enthousiasme.
Vous aurez un petit message d'adieu.
Écoutez,
pour vos
ce qui se dit au Conseil des ministres reste au Conseil des ministres.
Dites-le nous.
Bien sûr. Ouais, ça a été un très grand plaisir et un très grand honneur de servir les Français au gouvernement. C'est une autre manière de servir mes compatriotes que de mener cette liste.
Nathalie Loiseau, pleine et entièrement tête de liste dans quelques heures après le Conseil des ministres puisqu'elle quitte le gouvernement. Merci d'avoir été ce matin sur RTL. Bonne journée.
Merci.